ce qu'il fait, ses prières, ses dons, ses œuvres sont inutiles pour Dieu. Il n'est pas un disciple, il ne peut pas servir Dieu. Tout ce qui est fait par quelqu'un dont le cœur est divisé ne peut pas servir le Seigneur. Les cœurs divisés appartiennent à l'ennemi. Seul celui qui a le cœur pur peut servir Dieu. Non seulement les cœurs purs sont libres du péché, mais ils sont également libres de toute ambition. Ils ne connaissent qu'une seule inclination, c'est de faire la volonté totale de Dieu. Tout ce qui est fait par celui qui n'est pas un disciple, selon les conditions ci-dessus, constitue une œuvre de dispersion. Une telle personne n'amasse pas avec Christ. Elle disperse. Tous ceux qui ne sont pas disciples dispersent ce que Christ bâtit. Ce qu'ils font peut paraître très bon et très réussi, mais c'est de la dispersion. La prédication de l'évangile faite par une personne qui a refusé d'être disciple peut amener 100 personnes à Christ, mais elle en éloignera 10,000 autres, ce qui est tragique. Personne ne devrait penser seulement au nombre de ceux qui ont cru. Page 171. Chacun doit penser à tous ceux qui ont été repoussés par le péché de celui qui prêche l'évangile, son cœur partagé, sa conduite non crucifiée, son absence de caractère chrétien, sa rébellion intérieure, sa convoitise, etc. Quiconque n'est pas disciple causera finalement une grande perte à l'évangile. Si tu n'es pas un disciple, tu dois choisir soit d'en devenir un, soit de devenir un ennemi. Si tu es réellement un disciple, tu peux aller et faire d'autres disciples. La formation des disciples n'est pas un travail de masse. Former des disciples n'est pas un travail de masse. Quelqu'un qui est devenu disciple prend une autre personne ou d'autres personnes et leur donne tout de lui-même afin qu'ils deviennent comme lui. Il prend à part ses disciples et passe presque tout son temps avec eux dans la prière, l'étude biblique, l'évangélisation, les repas, les détentes, le travail, le nettoyage, les dépenses d'argent, etc. Il expose toute sa vie à ses disciples et leur montre tout. Il ne cache rien et ne retient rien. Il leur laisse voir ses qualités et ses faiblesses. Il le voit s'efforcer de ressembler davantage à Jésus. Il le voit faire face aux tentations et les vaincre. Il le voit quand il est faible, fatigué, découragé et aussi quand il est plein de zèle, de foi, de courage et de force. Il les conduit dans chaque aspect de la vie du disciple. Il a peut-être des imperfections, mais il est un disciple et peut les conduire au stade qu'il a lui-même atteint. Je répète qu'il ne s'agit pas seulement de leur transmettre quelque enseignement, ni de partager avec eux quelque aspect de son ministère. Il ne se contente pas de partager leurs problèmes, mais il se livre lui-même, il donne tout de lui-même. Personne ne peut former des disciples s'il ne laisse la croix anéantir son importance personnelle, page 172. Sa recherche de succès, son orgueil, etc. Si quelqu'un n'est pas débarrassé de ces choses, il va s'efforcer de cacher ses défauts et de mettre en évidence ses points forts. Ce sera de l'hypocrisie. Or, les hypocrites ne sont pas des disciples. Ils ne peuvent en réalité que produire des hypocrites. Vois-tu, quand Jésus était fatigué et lassé, il ne le cachait pas à ses disciples. La Bible dit « Mon âme est triste, jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi » Matthieu 26, 38. Il partagea avec ses disciples les tentations qu'il avait eues dans le désert, sans cela nous n'en aurions jamais entendu parler. Pierre partagea son triple reniement de Jésus, c'est pourquoi Marc a pu le mettre par écrit. David partagea son grand péché et sa repentance dans le psaume 51. Dans la formation des disciples, tu te livres entièrement. La personne devient tellement ton disciple qu'elle ressemble au Seigneur et à toi. Paul avait dit aux Philippiens d'être ses imitateurs, comme il était lui-même l'imitateur de Christ. Était-ce de la hardiesse? Non, c'était la réalité. Tu dois former des disciples, mais il faut d'abord que tu sois toi-même un disciple. Seuls ceux qui ont été faits disciples peuvent faire des disciples. La formation de disciples, son impact dans le royaume formé des disciples, est le moyen le plus rapide pour édifier le royaume de Dieu et hâter le retour de Jésus-Christ. Au début, cela semble très lent, mais c'est le meilleur moyen. Les apôtres, à un moment donné, ont échoué dans la formation de disciples et l'Église a échoué, tout au long de son histoire, dans sa tâche de formation de disciples. Prenons pour acquis qu'il faut une année pour conduire quelqu'un au Seigneur, pour lui apprendre les principes fondamentaux de la vie de disciple et pour qu'il applique ces principes dans sa vie. Ensuite, il pourra lui aussi amener une autre personne au Seigneur et lui apprendre les mêmes principes par l'exemple de sa vie et par tout autre moyen. Page 173. Comment cela va-t-il continuer? Si nous supposons qu'il n'y a qu'un seul disciple la première année, cela s'enchaînera comme suit: année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nombre de disciples: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, 2097152, 4194304, 8388608, 16.777.216, 33.554.432, 67.108.864, 134.217.728, 268.435.456, 536.870.912, 1.073.741.824, 2.147.483.648, 4.294.967.296, 8.589.934.592, page 174. Ainsi, nous voyons qu'il y a plus de 8 milliards de disciples sur la Terre 34 ans après que le premier disciple ait commencé, en supposant que chaque disciple forme un nouveau disciple, chaque année. Par un seul disciple qui commence, toute la population du monde devient disciple en moins de 35 ans. Considérons les 12 apôtres que le Seigneur avait laissés. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient consacrés. Comment le Seigneur voulait-il qu'ils se multiplient? Je pense que c'était de la manière suivante: année après Jésus-Christ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nombre de disciples: 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768, 1536, 3072, 6144, 12288, 24576, 49152, 98304, 196608, 393216, 786432, 1572864, 3145728, 6291456, 12.582.912, 25.165.824, 50.331.648. 100.663.296, 201.326.592, 402.653.184, 805.306.368, 1.610.613.736, page 175. En l'an 61 de notre ère, il y avait moins d'1,6 milliard d'habitants sur la Terre. Si les premiers disciples s'étaient attachés à faire des disciples, l'œuvre entière aurait été achevée en l'an 61, soit moins de 30 ans après le départ du Seigneur. Il serait donc déjà revenu depuis longtemps. Lorsque nous avons démarré l'assemblée locale ici à Yaoundé en 1979, nous étions un petit groupe d'environ 25 personnes qui rompaient le pain ensemble. Si nous nous étions attachés à agir comme le Seigneur le voulait, combien serions-nous maintenant? année 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, effectifs de l'église de Yaoundé, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200. 102 400, 204 800, 409 600, 819 200, 1 638 400, 3 276 800, 6 553 600, 13 107 200, 26 214 400, 52 400, 28 800. En l'an 2000, le nombre de disciples possibles dépasserait les 50 millions, ce qui est largement supérieur à la population de tout le Cameroun. La croissance de l'Église, par la formation continue de disciples, présente les avantages suivants, page 176. Elle correspond à l'ordre du Seigneur, c'est sa méthode et par conséquent, elle doit être la meilleure. Elle exige une conformité totale à Christ et, par conséquent, c'est une œuvre rigoureuse, qui ne laisse aucune place à la fausseté? Ceux qui sont hypocrites ne peuvent y prendre part. Si des hypocrites entrent dans cette œuvre, ils découvriront rapidement qu'ils sont hypocrites et il faudra soit qu'ils abandonnent, soit qu'ils reçoivent réellement le salut. L'œuvre n'a besoin d'aucune structure élaborée, ni de grands bâtiments, etc. Les procédures administratives complexes sont éliminées. Il n'est pas nécessaire d'avoir de lourds budgets financiers qui poussent des dirigeants religieux non consacrés à utiliser des méthodes charnelles pour récolter des fonds. L'œuvre s'effectue de manière rapide et durable et permet l'évangélisation complète des villages, des tribus, des nations, des continents et du monde en un temps record, en une génération. Cette croissance de l'Église est si sensible à l'action du Saint-Esprit que si quelqu'un cesse de marcher avec Dieu, il sera vite découvert par celui qui assure sa formation ou par celui qu'il est en train d'enseigner. L'œuvre de Dieu doit être faite selon les directives de Dieu. Il nous faut former des disciples. Nous ne devons pas porter les problèmes de l'œuvre de Dieu sur nos épaules et nous inquiéter inutilement pour savoir si oui ou non les disciples seront capables de former d'autres disciples. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de veiller à notre conduite. Si notre consécration au Seigneur est totale, nous serons imités et nos disciples seront radicaux dans leur consécration au Seigneur. C'est une loi spirituelle importante. Tu n'es pas indispensable au Dieu, va t'utiliser pour établir une assemblée locale si tu es spirituellement qualifié. Cependant, tu dois toujours rester humble. Ne t'incline pas devant le diable, fais-lui face avec entêtement. Fais face avec entêtement à toute personne ou tout système qui, page 177, t'éloigne du logo ou du rama de Dieu. Mais sois très humble devant Dieu. Sois très sensible au Saint-Esprit de Dieu. Obéis-lui en tout temps. Tu peux offenser les gouvernements du monde, les systèmes religieux, les traditions du monde, etc. sans conséquences très graves, mais tu ne peux pas te permettre d'offenser Dieu. Il faut que tu lui obéisses et que tu sois rempli d'une sainte crainte devant lui. Ne sois pas plein de toi-même. Dans ton service pour Dieu, il se pourrait que la nation entière et même le continent entier entendent parler de toi, mais cela ne devrait pas te pousser à être orgueilleux. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Tu as pu travailler plus que les autres, être plus consacré que les autres, mais pourquoi deviendrais-tu orgueilleux pour cela? La grâce de Dieu a travaillé en toi pour produire cela. Donne toute la gloire à Jésus. L'apôtre Paul a dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est, avec moi » I Corinthiens 15, 10. Je répète que tu dois marcher humblement devant Dieu. Ne sois pas plein de toi-même et de ce que tu as fait. Dieu peut t'écarter de ta position d'autorité et de service. Moïse dirigeait le peuple d'Israël. Il semblait presque indispensable, mais il n'a pas sanctifié le Seigneur aux yeux du peuple, et il a été disqualifié. Dieu lui enleva la direction et la donna à Josué et son serviteur. Judas, lui aussi, a perdu sa place au milieu des apôtres, etc. Parce que tu n'es pas indispensable, partage le ministère avec les autres. Lève-les, aide-les à grandir jusqu'à ce que l'assemblée locale n'ait plus besoin de toi. Quand ce moment viendra, si la croix t'a séparé de toi-même, t'a séparé de l'œuvre et t'a séparé pour être au Seigneur, tu pourras, comme Jean-Baptiste, te réjouir lorsque quelqu'un d'autre prendra la relève et croîtra en importance pendant que toi tu diminueras. Jean-Baptiste a dit aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue Jean 3, 29-30. Il a dit ceci alors qu'on venait de lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui » Jean 3, 26. Jean ne s'intéressait pas à lui-même. Il n'attachait pas d'importance à sa propre gloire. Il se préoccupait de la gloire du Seigneur, page 178. Et, lorsque le Seigneur recevait louange et gloire, il était satisfait. Il était mort à lui-même. Il savait qu'il n'était pas indispensable. Ne cherche pas à rester à la direction quand ton temps a expiré. Ne cherche pas à rester dans un lieu quand ton œuvre y est achevée. Quand Dieu te met de côté, accepte-le et réjouis-toi. Il sait ce qu'il fait, gloire à son nom. Dans le creuset de l'échec, beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur échouent malgré tout dans l'accomplissement du but de leur vie pour le Seigneur. Elles peuvent même manquer d'accomplir ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Comment vas-tu réagir au jour de l'échec? Comment vas-tu réagir quand le Seigneur te mettra de côté et mettra quelqu'un d'autre à ta place? Voici ce que je te recommande, reconnais que tu as échoué. Ne te justifie pas toi-même d'une manière quelconque. Reconnais que les jugements de Dieu sont corrects. Soumets-toi au verdict de Dieu. N'accuse personne ni quoi que ce soit. Ne te préoccupe même pas à te blâmer toi-même. C'est inutile. Moïse a échoué. Il devait conduire le peuple de Dieu dans la terre promise, mais quand il a échoué, Dieu lui a dit « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. » Nombre 27, 12-14. Moïse plaida « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il, au ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban » Deutéronome 3, 24-25. Mais le Seigneur lui dit « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué et fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui, le page 179, mettra en possession du pays que tu verras de Deutéronome 3, 2628. C'était pénible. Il voyait le pays où il ne pourrait pas entrer. Il était disqualifié. Sa requête a été rejetée. Dieu lui a parlé de son successeur. Moïse devait encourager son successeur et tout faire pour s'assurer qu'il réussisse. Josué devait prendre la relève en tant que dirigeant. Lui, Moïse, ne pourrait pas entrer dans le pays dans lequel il languissait d'entrer et pour lequel il avait travaillé pendant près de 40 ans. Un autre allait avoir cet honneur. Si Moïse n'avait pas été un homme crucifié, il aurait été amer. Il aurait été jaloux. Mais il était crucifié. Il était mort à ses propres intérêts. Il se mit à préparer Josué et, pour qu'il prenne la direction du peuple de Dieu et l'introduise dans la terre promise. Il était réellement mort à tous ses intérêts. Son œuvre avait souffert, mais l'œuvre de Dieu n'avait pas souffert. Regardez ce qui s'est passé immédiatement après que Dieu lui eut dit qu'il était disqualifié. Moïse n'a pas réagi en disant « J'ai perdu. Mon œuvre est finie. J'ai échoué. » Non, sa réaction a été la suivante: que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Nombre 27, 16-17. Quel est l'objet de ton engagement? Est-ce de faire la volonté de Dieu pour son œuvre ou bien d'accomplir ton œuvre pour Dieu? Si ton œuvre échouait et que son œuvre continuait, ta joie serait-elle parfaite? C'est ce qui arrivera si ton service est uniquement pour la gloire de Dieu et qu'il n'y a rien de toi-même dans ce service. Ils sont peu nombreux ceux qui agissent ainsi. L'œuvre de Wesley s'est achevée, mais l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Martin Luther s'est achevée, mais l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Whitman s'est achevée, mais l'œuvre de Dieu continue. Page 180. Bien que je ne sois rien comparé à ces hommes de Dieu, qui étaient des géants, je peux aussi dire que l'œuvre de Zacharia Fomum s'achèvera, mais que l'œuvre de Dieu continuera. Le Seigneur reprendra ses ouvriers, mais il en mettra d'autres dans son œuvre. Notre œuvre souffre, la sienne continue. Gloire soit à son saint nom, l'échec n'est pas nécessairement définitif. Moïse accepta le verdict de Dieu. Il mourut sans entrer dans la terre promise. Il semblait que c'était une fin triste et ténébreuse, mais était-ce bien le cas? Environ 1500 ans plus tard, ce même Moïse apparut sur la montagne de la Transfiguration, non avec les enfants d'Israël, mais avec le Seigneur de toute gloire. Il était là sur cette montagne, parlant avec Jésus dans la gloire qui précédait sa résurrection. Il avait réellement traversé le Jourdain, non avec les enfants d'Israël, mais à travers la résurrection. Il était là, non seulement dans ce beau pays de montagne, mais sur une autre montagne. Il était dans le beau pays. Il le vit. Il le touchait de ses pieds, mais ce beau pays de montagne n'était pas l'objet de son attention. Jésus-Christ, le roi des rois, était l'objet de son attention. Il possédait quelque chose qui valait bien plus que ce beau pays de montagne. À ce moment, si quelqu'un avait demandé à Moïse « Aurais-tu préféré traverser le Jourdain avec les enfants d'Israël ou le traverser aujourd'hui ?» Je crois que Moïse se serait écrié « Maintenant, maintenant, maintenant ». Ainsi l'échec ne fut pas définitif. Il avait aimé le Seigneur? Il avait servi le Seigneur? Il s'était uniquement consacré à la gloire du Seigneur? Il avait accepté qu'on le mît de côté après un échec et qu'on choisît quelqu'un d'autre à sa place. Il ne se préoccupait que de la gloire et de l'œuvre de Dieu. Parce que son cœur était caché dans le Seigneur, parce qu'il était totalement démuni de tout intérêt égoïste, Dieu fit en sorte que cet échec ne soit que temporaire. Ce qu'il reçut plus tard fut bien plus grand que ce qu'il aurait eu s'il n'avait pas échoué. Nous devons donc travailler pour le Seigneur et seulement pour lui. Nous devons lui être fidèles en toutes choses. Nous devons, page 181, nous oublier nous-mêmes et nous plonger en lui. Nous devons être parfaitement honnêtes devant lui. En le servant de cette manière, même l'échec le plus tragique peut être transformé en bien. Notre échec n'est pas nécessairement définitif. David aimait le Seigneur de tout son cœur. Peut-être qu'aucune autre personne dans toute la Bible n'a aimé le Seigneur comme David. Mais pourtant David a péché. Il a commis un péché grave. Il a commis l'adultère. Plus tard, il se repentit profondément. Quoique Dieu l'ait puni, Dieu lui pardonna aussi. De son mariage avec Bathsheba, la femme avec qui il avait commis l'adultère, naquit Salomon. La Bible dit, en 2 Samuel 12, 25, il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jodidja, à cause de l'Éternel. Jodidja signifie bien aimé de l'Éternel. Le Seigneur fit de ce Salomon le plus sage des rois d'Israël. Quant à David, le Seigneur conclut une alliance éternelle avec lui. David demeura l'homme, selon le cœur de Dieu, et il régnera avec Jésus-Christ, son plus glorieux descendant, dans la gloire, pendant le millénium. Ainsi, l'échec de David ne fut pas définitif. De même, quoi qu'il t'arrive durant ton service, même si tes plus beaux plans et projets pour la gloire du Seigneur semblent avoir échoué, regarde Seigneur. Whitman voulait atteindre toute la Chine par l'Évangile. Il est resté fidèle et fut jeté en prison. Les assemblées furent fermées. Les dirigeants furent emprisonnés. Il semblait que c'était la fin tragique d'une vie qui avait été totalement consacrée à Dieu, au salut et à l'édification de son peuple en Christ. Mais était-ce la fin? Non. Grâce soit rendue au Seigneur. À cause de son travail pour le Seigneur, et en partie en raison de sa fidélité envers le Seigneur, il y a aujourd'hui en Chine une église cachée, fidèle au Seigneur? Oui, il y a en Chine une église qui ne mourra pas. Cette église compte non seulement des centaines de milliers de membres que Wetmine a laissés, mais des millions. Oui, des millions. Gloire au Seigneur. Gloire soit à Dieu, qui est capable de te préserver de la chute et te présenter sans tache devant sa gloire, avec allégresse. Au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la domination et l'autorité, dans tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen. Page 182. Il nous faut agir maintenant. Mes bien-aimés frères, il nous faut agir maintenant. Nous devons avoir pour but de prendre notre propre ville et toutes les autres villes pour Jésus-Christ. Oui, nous devons aller de l'avant et prendre également des quartiers, des villages, des chefs-lieux, des sous-préfectures, des préfectures, des capitales. Ensuite, nous devons aller au-delà de nos frontières nationales. Nous devons prendre des villages et des villes dans les pays voisins. Nous devons continuer jusqu'à ce que nous ayons achevé notre participation à la moisson totale de Dieu. Nous ne devons prendre aucun repos. Nous ne devons accepter aucune limitation. Nous devons aller de l'avant jusqu'aux confins du monde. Nous devons organiser de grandes croisades, organiser des petites campagnes, faire de l'évangélisation sur un plan personnel, produire et distribuer des milliards de traités, produire et distribuer des milliards de livres, produire et distribuer des milliards de cassettes. Chacun doit commencer là où il se trouve. C'est un bon point de départ. Il doit ensuite continuer à avancer jusqu'à ce qu'il rencontre les forces conquérantes de son frère ou de sa sœur, et alors, ils vont s'unir et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons conquis le monde entier pour Dieu. Nous devons le faire ensemble. Chacun contribuera selon ses moyens. Certains donneront beaucoup, alors que d'autres donneront peu, mais chacun doit donner tout ce qu'il a. Nous ne devons permettre à personne de nous laisser de côté. Nous devons inviter les autres ouvriers, qui ne voient pas comme nous à venir travailler avec nous, non pour bâtir notre organisation, car nous n'avons aucune organisation à bâtir, mais pour bâtir le royaume de Dieu. Commençons aujourd'hui et agissons, et que la puissance du Seigneur envahisse des villages entiers, des villes entières et des nations entières pour la gloire de Christ. Nous serons alors réellement bénis. Gloire soit au Seigneur. Amen. Page 183.